Nous sommes le vendredi 10 juillet, bonjour à tous et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Vous êtes en compagnie de Baptiste Mourigal et d'Anne Neuflao.
À la une aujourd'hui, en visite d'État en Mongolie, Lee Jae-myung plaide pour un âge d'or des relations entre Séoul et Ulaanbaatar. Nous reviendrons également sur les discussions nécessaires entre Séoul et Washington pour installer le futur pôle de semi-conducteurs sur l'aéroport militaire de Gwangju. Enfin, les fortes pluies qui ont frappé plusieurs régions du pays ont déjà fait un disparu et provoqué d'importants dégâts matériels.
Nous ouvrons ce journal avec la visite d'État de Lee Jae-myung en Mongolie. Reçu hier par son homologue mongol, le président sud-coréen a affiché sa volonté de porter le partenariat stratégique entre les deux pays à un niveau supérieur.
Lors de leur entretien en tête-à-tête, Lee Jae-myung a promis de renforcer la confiance politique entre Séoul et Ulaanbaatar et a souhaité que cette rencontre marque le début d'un nouvel essor des relations bilatérales. Il a même évoqué l'ouverture d'un âge d'or entre les deux pays. Le président sud-coréen entend également approfondir la coopération dans de nombreux domaines. Il a indiqué vouloir s'appuyer sur l'accord de partenariat économique global conclu cette semaine pour développer les échanges dans des secteurs allant de l'économie à la santé. Lee Jae-myung souhaite aussi relancer les échanges humains et culturels et mieux valoriser le patrimoine historique partagé entre les deux pays, en citant notamment la figure de Lee Tae-joon, médecin et indépendantiste coréen installé à Ulaanbaatar au début du XXe siècle.
Les questions régionales ont également occupé une place importante dans les discussions.
Le chef de l'État a souligné la nécessité pour Séoul et Ulaanbaatar de coopérer étroitement en faveur de la paix et de la stabilité en Asie du Nord-Est. Il a réaffirmé sa volonté de favoriser le dialogue avec la Corée du Nord et a remercié la Mongolie pour son rôle constructif dans les dossiers liés à la péninsule coréenne.
Son homologue mongol a salué de son côté cette visite qu'il a qualifiée d'historique.
Oui, il a rappelé que la Corée du Sud était le troisième voisin de la Mongolie et un partenaire stratégique majeur. Il s'est dit convaincu que cette visite permettra aux deux pays de consolider leur coopération et d'ouvrir eux aussi un nouvel âge d'or de leur relation.
Cette volonté de renforcer les relations bilatérales s'est d'ailleurs traduite par plusieurs avancées concrètes sur le plan économique.
Les deux pays sont parvenus à une conclusion de principe sur leur accord bilatéral de partenariat économique global, le CEPA. Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie, les négociations sont désormais achevées sur l'essentiel des dispositions, notamment l'ouverture des marchés et les règles de production. Seuls quelques points techniques resteraient à finaliser. Cet accord doit notamment renforcer la coopération dans les minéraux critiques. La Corée du Sud pourra sécuriser davantage ses approvisionnements en cuivre, en molybdène ou encore en terres rares en provenance de Mongolie. En contrepartie, Séoul supprimera les droits de douane de 2 à 5% appliqués à ces matières premières, tandis que les entreprises sud-coréennes bénéficieront d'un meilleur accès au marché mongol. Les deux gouvernements se sont engagés à ouvrir plus de 90% de leur marché des marchandises et à renforcer leurs échanges dans les infrastructures, la finance et les services de santé.
Cette visite d'État a aussi donné lieu à la signature de nombreux accords.
En présence des deux chefs d'État, la Corée du Sud et la Mongolie ont conclu hier 21 protocoles d'accords portant notamment sur la coopération scientifique, technologique, logistique, énergétique, climatique et numérique. À l'heure de notre enregistrement, le président doit être reçu par le président du Grand Khoural, le Parlement mongol, avant de s'entretenir avec le Premier ministre. La journée s'achèvera ce soir par une cérémonie d'échange de présents d'un banquet d'État offert en son honneur.
Le projet de pôle de semi-conducteurs dans le sud-ouest du pays soulève désormais des enjeux de sécurité.
Le gouvernement prévoit d'aménager ce complexe sur le site de l'aéroport militaire de Gwangju, une base aérienne utilisée conjointement par les forces sud-coréennes et américaines. Sa réalisation nécessitera donc une étroite coordination entre Séoul et Washington et le transfert de la base devra faire l'objet de consultations bilatérales. Selon les autorités militaires des deux pays, le site accueille des installations destinées à être utilisé par les forces américaines en cas d'urgence. Son déplacement devrait ainsi être examiné dans le cadre de l'accord sur le statut des forces américaines en Corée du Sud, ainsi qu'à travers une nouvelle désignation de la base conjointe.
Et quelle est la position de chaque camp actuellement ?
Le ministère sud-coréen de la Défense souhaite accélérer le projet. Il a indiqué étudier les solutions permettant de libérer le terrain dans les meilleurs délais, tout en garantissant le maintien des capacités de défense et a confirmé l'ouverture de discussions avec la partie américaine. Washington a de son côté rappelé l'importance stratégique du site. La 7e force aérienne américaine a souligné qu'elle conservait des intérêts militaires majeurs sur la base de Gwangju et qu'elle poursuivrait sa coopération avec l'armée de l'air sud-coréenne afin de maintenir une solide posture de défense conjointe.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Le parti au pouvoir poursuit sa réforme de la justice. Le Minjoo a déposé hier un projet de loi visant à modifier le code de procédure pénale.
Le texte prévoit de supprimer le pouvoir du parquet de mener des enquêtes complémentaires après les investigations de la police. En contrepartie, les procureurs pourraient demander davantage de compléments d'enquête et exiger, si nécessaire, le remplacement ou des sanctions disciplinaires contre les enquêteurs concernés. Selon le parti présidentiel, cette évolution doit accompagner la séparation entre les fonctions d'enquête et de poursuite, tout en améliorant l'efficacité des investigations menées par la police.
L'opposition conservatrice rejette toutefois cette proposition.
Le parti du pouvoir du peuple estime qu'elle donnerait à la police un quasi-monopole des enquêtes. Il cite notamment le récent meurtre d'une lycéenne à Gwangju, dont l'enquête a révélé plusieurs dysfonctionnements, pour dénoncer les risques d'un tel transfert de compétences.
Les fortes pluies qui touchent la Corée du Sud depuis le 8 juillet ont déjà fait un disparu et causé d'importants dégâts dans plusieurs régions du pays.
Selon le dernier bilan communiqué ce matin par le quartier général central des mesures de lutte contre les catastrophes et la sécurité, 453 cas de dommages matériels ont été recensés. 24 habitations ont été inondées et 758 personnes issues de 508 foyers ont dû être évacuées à titre préventif. Plus de 436 hectares de terres agricoles ont été endommagés, principalement dans la région de Chungcheon. Des glissements de terrain ont par ailleurs été signalés à Okchon, Yongwol et Cheonnan.
Les précipitations étaient particulièrement abondantes dans le centre du pays.
Depuis mardi, certaines localités ont enregistré près de 250 mm de pluie avec un maximum de 267 mm relevé à Cheonnan et de 259 mm à Gyeryong dans la province du Chungcheon du Sud. Le gouvernement a activé le niveau 1 de son dispositif de réponse aux catastrophes et poursuit l'évaluation de la situation. Il a indiqué maintenir une surveillance renforcée des conditions météorologiques et des inspections dans les zones exposées au risque d'inondation et de glissement de terrain.
Et pour terminer ce journal, le gouvernement sud-coréen mise sur la jeunesse pour renforcer le rayonnement international de la culture.
Le ministère de la Culture a annoncé aujourd'hui le lancement du programme Les Jeunes Pionniers Globaux de la culture en partenariat avec la Fondation pour les échanges culturels internationaux. Cette initiative prévoit d'envoyer 700 jeunes dans 36 pays dès cette année.
Concrètement, en quoi cela consiste ?
Le programme s'articule autour de deux voies. La première permettra aux participants de concevoir et de mener eux-mêmes des projets culturels dans des domaines aussi variés que les arts visuels, les arts du spectacle, les webtoons, la littérature ou encore la mode. Ils pourront collaborer avec des universités et des institutions culturelles locales afin de présenter leurs créations et d'échanger avec des artistes étrangers. Des étudiants de l'École des arts de Séoul présenteront par exemple le Bongsan Dalcho, une danse traditionnelle coréenne masquée lors du Festival des arts de Bali en Indonésie. La seconde sera davantage tournée vers l'expérience professionnelle. Les participants effectueront des stages au sein d'organismes culturels sud-coréens implantés à l'étranger, notamment les centres culturels coréens, les bureaux de la COCA, de l'Office national du tourisme ou encore les instituts Roi Sejong, chargés de promouvoir la langue coréenne à travers le monde.
Merci d'avoir suivi ce journal. Plus d'informations sur notre site internet. Tout de suite, entre nous avec Elodie Stanislas. Bonne fin de semaine à l'écoute de KBS World Radio.